gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien!
La causerie, dimanche 22h-23h. Et oui, sur les ondes de Radio Canu au 102.2 ou sur radiocanu.org avec un son qui fait mais ça va bientôt être réparé. Voilà, je le dis, que les gens ne soient pas surpris. Oui, en streaming, on peut avoir plus d'effets de qu'en FM. Bah, t'as qu'à habiter Lyon aussi, hein. Moi je suis pour rien personnellement. Donc tu viens à Lyon, à la limite on peut te loger, la causerie, tout ça, si tu veux nous écouter. Mais voilà.
Mais arrête d'être agressif comme ça. Non, non, en plus, arrête d'être agressif.
Non,
c'est un problème
agressif.
Informatique qui doit être réglé.
Mais oui.
On l'espère très prochainement, en début de semaine.
C'était dans cette idée-là que je disais ça, que les gens ne s'inquiètent pas de ce son bizarre. Et sinon, donc autour de la table, on a à la technique Clara.
Bonsoir.
Et on a aussi Jean-Yves.
Bonsoir Fab.
Bonsoir. Et si tu veux nous écrire, c'est lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com. Alors c'est si tu veux nous envoyer un petit mot, mais c'est aussi si tu es une association, un artiste, quelqu'un qui a envie de passer dans l'émission. Et alors, si vous avez vu tout ce qu'on fait, on est assez large. À partir du moment où ça match entre vous et nous, il y a aucun problème, on fait l'émission.
Voilà. Ça match. Ça match.
Oh là là.
C'est vraiment j'ai perdu.
Site de rencontre.
Ah oui, c'est ça.
À partir du moment où ça colle entre vous et nous, où ça le fait, à partir du moment où.
C'est une histoire de goût.
C'est une... Oh, mais ça part mal, cette émission, ça part mal. Donc voilà. Et sinon, on est.
Non, c'est juste, on fonctionne de
au
manière.
Au consensus,
aussi
et à la bonne humeur.
Au consensus, effectivement. Voilà. Donc vous pouvez toujours proposer. S'il y a au moins deux personnes du collectif qui sont OK. Eh bien, ce sera fait.
Ben voilà, tu as tout dit.
Voilà.
Et sinon, on est aussi sur un réseau socio-commercial qui s'appelle Facebook. Et sinon, on est aussi sur toutes les plateformes de podcast. Et si tu ne nous trouves pas sur les plateformes de podcast, tu tapes simplement dans le meilleur des moteurs de recherche, c'est-à-dire un qui n'a pas de truc pour te tracer. Voilà, et tu tapes la causerie Canu podcast et tu vas nous trouver très facilement. Voilà, et donc on va démarrer l'émission de ce soir en commençant avec Jean-Yves qui avait envie de nous parler d'un sujet, on va dire...
sympathique.
Mortel.
Oui, on va plutôt dire ça, effectivement. Ce soir, j'ai envie de vous parler et de vous inviter à lire le rapport d'Amnesty International sorti le 24 mai au sujet de la peine de mort dans le monde. Alors... on va commencer quand même par préciser un petit peu le cadre, les limites, etc. de ce rapport. Donc ce rapport, hein, il porte donc sur l'utilisation judiciaire de la peine de mort pour la période allant de janvier à décembre 2021, forcément. Et comme les années précédentes, en fait, les informations utilisées proviennent de différentes sources, telles que des données officielles, des décisions de justice, des renseignements fournis par les condamnés à mort et leurs familles ou représentants, et représentantes, des informations aussi parues dans des médias et pour un nombre limité de pays, des rapports d'autres organisations de la société civile. Lorsque les données officielles ne sont pas publiquement disponibles, eh bien Amnesty International écrit aux autorités concernées pour leur demander des informations sur leur utilisation de la peine de mort. Alors il faut savoir quand même que dans de nombreux pays, les autorités ne publient pas de données sur le recours à la peine de mort. Par exemple en Chine et au Vietnam, les chiffres relatifs à l'application de la peine de mort sont classés secret d'État.
C'est pratique.
Bah oui, comme ça, t'as aucun compte à rendre et t'as rien. Mais ça doit être à la force du communisme autoritaire de taire les choses. Pour l'année 2021, il n'existe que très peu d'informations, voire aucune, sur quelques autres pays, en particulier le Bélarus, la Corée du Nord, on en serait étonné, et le Laos, bah, du fait évidemment de pratiques restrictives de la part de l'État, enfin des États mentionnés. Donc par conséquent, pour de nombreux pays, en fait, les statistiques d'Amnesty International, relatif toujours à cette peine de mort, sont des estimations a minima, faut bien le garder en tête, et les totaux fournis sont donc fort probablement en deçà de la réalité.
Mais c'est le problème d'ailleurs qu'il y avait une époque entre le Bélarus, enfin la Biélorussie comme on dit parfois, et la Russie, où il y avait des prisonniers qui étaient extradés en Biélorussie, qui disparaissaient, et comme les chiffres de la peine de mort et de l'application de la peine de mort sont secrets défense ou pas fournis, bah, ça permettait d'éliminer des gens sans le dire.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Non, mais on voit à quoi ça sert de ne pas fournir les chiffres, c'est que systématiquement, c'est pour faire disparaître des gens qui dérangent, de toute manière.
Bah oui, après, d'où l'intérêt aussi d'avoir des collectifs, même informels, etc., dans certains pays, qui bossent là-dessus pour recueillir. Enfin, on avait parlé, enfin, je vous avais parlé de, je crois que c'était le Myanmar, de Birmanie, donc, où bah, c'est des assos qui essayent de collecter des informations. Ça se passe pareil actuellement ici en Russie, autour des personnes qui sont arrêtées, emprisonnées, etc., autour de la guerre et tout ce bordel. Et c'est de la quête d'informations constantes qui sont faites aussi en partie grâce à des collectifs, des assos qui sont dans ces pays-là. Et donc ce rapport, alors au sujet des exécutions, à l'échelle mondiale, Amnesty International a enregistré 579 exécutions dans 18 pays en 2021, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport aux 483 exécutions recensées en 2020. Mais il faut quand même garder en mémoire à quoi ressemblait l'année 2020. Il y avait une pandémie mondiale, tout ça,
c'était
tout
un peu
ça.
Le Covid.
Donc, même les exécutions, ça a ralenti le rythme, en tout cas, si on peut dire ça comme ça.
Bah, on peut le dire, parce que moi, je me rappelle du gouverneur du Texas, qui est pourtant une démocratie, qui disait il faut vite, vite exécuter maintenant parce qu'on n'a pas de vague de Covid. Vous voyez, donc, il était quand même assez clair sur le fait que le Covid, ça avait empêché des exécutions.
C'est ça. Donc malgré ces augmentations donc, de 20% par rapport à 2020, 2021, en fait, le nombre total d'exécutions recensé donc en 2021, pardon, à l'échelle mondiale, se situe au second rang des chiffres les plus bas depuis au moins 2010, selon toujours les chiffres dont dispose Amnesty International. Pour la deuxième année consécutive, le nombre de pays ayant à la connaissance d'Amnesty International procédé à des exécutions a été le plus bas jamais enregistré par l'organisation. En 2019, 2020, 2021, Amnesty International a enregistré 657 exécutions, 483 et donc 579 pour 2021. Alors, la plupart des exécutions recensées ont eu lieu par ordre décroissant en Chine, en Iran, en Égypte, en Arabie Saoudite et en Syrie. On peut aussi, alors les chiffres dont dispose Amnesty toujours montrent que sur les 579 personnes exécutées en 2021, évidemment, 24, donc 4%, étaient des femmes mises à mort dans les pays suivants. Il y en avait 8 en Égypte, 14 en Iran, une en Arabie Saoudite et une aux États-Unis. Alors si le Bélarus, le Japon et les Émirats Arabes Unis ont repris les exécutions, d'un autre côté, on n'a aucune exécution qui a été recensée en Inde, au Qatar ainsi qu'à Taïwan, contrairement à 2020. Donc voilà, c'est vraiment un rapport tout en nuances et voilà, il y a des choses positives, d'autres qui sont.
Et puis après, la notion de chiffre, c'est toujours discutable parce qu'après, on peut avoir une baisse, une hausse, ou voilà, mais dans tous les cas, un, c'est déjà trop, comme on dit, et c'est le fait qu'un État ôte la vie à quelqu'un au nom de la justice ou de je ne sais quoi, c'est déjà extrêmement barbare, comme l'emploi, souvent le Canu Info du jeudi a très juste raison, c'est les États barbares, Mais je comprends hein, la notion d'amnistie, mais là aussi, on peut nuancer, parce que l'Inde est en pleine vague pandémique, le Japon a fermé quasiment tout du fait de la pandémie. Oui. On voit bien qu'en fait, là aussi, il y a un effet Covid qui finalement bah, sauve des vies de condamnés à mort, mais quelque part n'est que temporaire et risque d'être en réaccélération dans l'année qui vient, sur 2022, parce qu'on va dire, oula, ça y est, on peut y aller, on y va à fond. Et ça se voit d'ailleurs dans les exécutions aux États-Unis qui aujourd'hui s'enchaînent et à d'ailleurs au grand dam de ceux qui condamnent la peine de mort aux États-Unis qui disent mais là on a une accélération comme on n'en avait pas vu depuis les années 80 sous Reagan, donc c'est quand même pas rien. On voit bien qu'il y a un effet rattrapage qui risque d'être assez terrible.
Oui effectivement, on peut prendre l'exemple du Japon, il commence tout juste à se réouvrir à l'extérieur, donc forcément évidemment ça a des conséquences. Et effectivement, je pense qu'il faut peut-être pas s'emballer trop.
Oui, il faut pas se dire on a une baisse constante parce que finalement 2019, 2020, 2021, c'est l'impact aussi de l'épidémie, c'est le fait que les gouvernements entre guillemets avaient autre chose à faire à ce moment-là et qu'on n'a pas besoin quand on a une épidémie de faire des exemples parce qu'on sait bien que les États qui pratiquent la peine de mort, c'est pour faire des exemples, soit pour que les gens n'osent pas se rebeller comme c'est le cas en Chine ou dans des pays autoritaires, ou même aux États-Unis où on croit que ça a une vertu salvatrice, ou au Japon où on dit ça permet de maintenir la société dans le droit chemin. On sait que ça sert d'exemple un peu stupide, on sait que ça sert à rien et que c'est juste barbare, mais j'ai un peu l'impression que la baisse et les baisses constatées sont plus en lien avec le climat actuel et avec le Covid qu'autre chose.
Qu'avec
la volonté de se
même
dire...
Si voilà. Après il y aura quand même des choses qui...
Mais après, peut-être qu'en 2022, je serai contredit et que le rapport de l'année prochaine sera super positif.
Ah, mais presque à la rigueur, on a...
Et je serai le premier à être content d'être contredit.
Oui, c'est ça, on a presque envie d'être contredit. Hein, on est bien d'accord. Alors pour continuer, donc l'Iran, elle a exécuté au moins 314 personnes contre 246 en 2020. Donc malgré une pandémie, ils sont... c'était 2020, donc c'était pas encore tout à fait la pandémie.
Là, ils l'ont nié, en Iran.
Oui.
Elle n'existait pas avant 2021, c'était un peu pratique.
Il n'y a pas eu de mort liée à la pandémie en Iran, c'est bien connu. Dieu a dû les protéger, très certainement. Donc, ce qui représente quand même, pour ce pays, le chiffre le plus élevé depuis 2017, alors que nombre d'exécutions étaient depuis en constante diminution. Mais il faut aussi là se rappeler qu'en Iran, il y a quand même assez souvent, et là actuellement il y a des mouvements sociaux, il y a des manifs, et on sait comment que se règlent les manifestations et les mouvements sociaux en Iran, ça se règle très mal en fait pour les gens. Le nombre d'exécutions enregistrées en Arabie Saoudite a fortement augmenté, passant de 27 à 65, ce qui représente une petite hausse de 140%, c'est autant dire rien, n'est-ce pas? Je suis plein d'ironie, précise.
Et ça, on voit bien que c'est la volonté de BMS, qui est l'actuel la tête, là, dont j'avais
Ben Salman.
Ben Salman, moi, dont j'avais parlé dans l'émission, en expliquant que comme il était déjà pas très légitime, c'est aussi une façon pour lui de réasseoir sa légitimité la trouille à toute personne qui viendrait.
C'est une réaffirmation du pouvoir.
Voilà, et on est très clair, c'est un outil politique avant tout.
Clairement.
Terrible et horrible, mais c'est un outil politique. Voilà.
Quatre personnes ont été exécutées pour des crimes commis alors qu'elles avaient moins de 18 ans. Trois en Iran et une au Yémen. Et si je me souviens bien, c'est totalement contraire à
la Convention internationale des droits de l'enfant.
C'est ça. C'est ça.
Ce sont des enfants. On a assassiné des enfants officiellement.
Selon Amnesty, toujours encore, des personnes condamnées pour des crimes commis alors qu'elles avaient moins de 18 ans se trouvaient sous les coups d'une peine à mort aux Maldives, au Myanmar, à Kabyrmanie et en Iran. À la connaissance d'Amnesty International, au moins 134 exécutions pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ont eu lieu dans deux pays, la Chine et l'Iran, ce qui représente une augmentation de 346% par rapport à 2020 où il y en avait eu 30. Les informations relatives au Vietnam, qui a très probablement procédé à des exécutions de ce type, n'étaient évidemment pas disponibles. Le Vietnam, c'est une royauté, je crois bien.
C'est un régime militaro-communiste.
Mais oui, c'est vrai. C'est encore du joli communisme autoritaire.
Toujours, oui. Ça n'a pas changé depuis l'indépendance.
Je confondais avec
la Thaïlande.
Des condamnations à mort ont été prononcées à l'issue de procédures qui n'ont pas respecté les normes internationales relatives à l'équité des procès. donc c'est-à-dire il n'y a pas eu de procès en bonne et due forme, hein. Notamment, je cite encore hein, le rapport d'Amnesty, notamment donc en Algérie, en Arabie Saoudite, au Bangladesh, au Cameroun, en Égypte, en Iran, au Myanmar, au Nigeria, au Pakistan, à Singapour, en Somalie et au Yémen. Alors au sujet, c'est intéressant aussi justement dans le rapport, c'est que ça fait le bilan des exécutions, mais ça fait aussi le bilan de ce qu'on peut voir comme des avancées en termes de législation, et c'est même pas, on peut le voir, ce sont des avancées. Donc en juillet, il y a le Parlement de la Sierra Leone qui a adopté à l'unanimité une loi abolissant la peine de mort pour tous les crimes. En décembre, il y a le Kazakhstan qui a adopté une loi abolissant la peine de mort pour tous les crimes et qui est entrée en vigueur en 2022. Le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a de son côté engagé une consultation nationale sur la peine de mort qui a abouti à l'adoption en janvier 2022, donc c'est assez récent, d'un projet de loi sur l'abolition, mais ce texte n'est pas encore entré en vigueur, c'est donc une affaire à suivre. À la fin de l'année, le gouvernement de la Malaisie a annoncé, à la fin de l'année 2021, le gouvernement de la Malaisie a annoncé pour le troisième trimestre 2022 des réformes législatives portant sur la peine de mort. À voir. Et donc à la fin de l'année 2021, pardon, dans plus de deux tiers des pays du monde, la peine de mort était abolie en droit ou en pratique. C'est quand même, on avance.
Oui.
108 pays, la majorité des États dans le monde, avaient aboli la peine de mort dans leur législation pour tous les crimes, et 144 étaient abolitionnistes en droit ou en pratique. Fin 2021, la peine de mort restait en vigueur dans 55 pays.
Oui, j'allais dire, alors c'est ça va être compliqué ce que je vais dire, mais je pense que les gens vont un peu... c'est une des grandes avancées de l'Union européenne et de l'Europe, c'était d'avoir aboli la peine de mort en tant que nation riche. Et c'est pas pour rien, c'est parce que c'était un symbole et qu'à un moment donné, l'idée d'avoir la peine de mort légitimait qu'elle existe dans des États totalitaires. Et dans l'idée d'enlever la peine de mort en Europe, c'était ça. C'était l'idée de dire, nous, si on ne la pratique pas, on ne pourra pas se servir de notre exemple pour dire, on peut le faire nous. Vous voyez. Le problème, c'est qu'aujourd'hui dans le monde, il y a deux grands, on va dire, impérialismes qui existent. On en voit bien. Un russe en ce moment qui est à fond. Je dis pas que l'impérialisme européen n'existe pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que les deux qui ont le vent en poupe en ce moment, c'est ces deux-là, donc c'est les Russes et de l'autre côté les Américains. Or, ces deux nations pratiquent la peine de mort. Donc le problème, c'est qu'elles servent d'exemple et qu'elles permettent en fait à tout un tas de pays autoritaires ou même démocratiques. Mais qui ont une pratique autoritaire de l'État, c'est-à-dire qui pratiquent la peine de mort, de dire, je vois pas pourquoi vous nous empêcheriez nous de l'avoir, parce qu'après tout, regardez, les États-Unis, la première grande liberté du monde, pratique la peine de mort. Et c'est ça le problème d'exemplarité. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que je trouve qu'on souligne pas assez ça. C'est-à-dire que c'est aux pays qui sont entre guillemets les plus visibles dans le monde, de par leur puissance économique, de par leur puissance militaire, d'être exemplaires et de dire, nous, on pratique pas cette barbarie parce que c'est une barbarie, ce n'est pas de la justice, ça ne sert à rien. Et tant qu'en fait, on aura les États-Unis et la Russie qui, ou, je ne l'espère pas, l'Europe qui reviendrait sur l'idée de la peine de mort et qui la remettrait en place, on la légitimera partout dans le monde. C'est-à-dire que c'est ça le problème. C'est que ça sert à légitimer. Parce que il y a un texte à l'ONU, par exemple, qui existe, qui condamne la peine de mort en tant que telle et qui est bloqué systématiquement par la Russie et les États-Unis. Donc les États qui veulent continuer à la pratiquer disent, attendez, si les deux grandes puissances qui sont là et qui ont un droit de veto à l'ONU bloquent, je vois pas pourquoi vous venez nous emmerder nous, parce que c'est quand même elles le problème au départ, vous voyez, ou si elles le font, ça légitime que je le fasse. Et c'est une vraie question, une vraie interrogation, et je trouve que souvent on n'ose pas en fait dire que l'exemple européen est plutôt positif. C'est-à-dire de dire, dans un espace, l'une des conditions pour faire partie de cet espace, c'est de ne plus pratiquer la barbarie d'État. Même si je suis pas un fanatique de l'Union européenne et que mais je trouve que cet aspect-là est un aspect intéressant qu'on devrait mettre plus en avant. Voilà.
Oui. Là, on a fait donc sur les avancées législatives, sur le nombre d'exécutés. Et puis là, on va aller au sujet des condamnés à mort en attente de leur exécution. Alors, tenez-vous bien. Donc, à la fin de l'année 2021, au moins 28 670 personnes se trouvaient sous le coup d'une condamnation à mort. Et à la connaissance d'Amnesty International, donc 82% de ces personnes étaient détenues dans 9 pays. En Irak, plus de 8000 personnes. Au Pakistan, plus de 3800 personnes. Au Nigeria, plus de 3000 personnes. Aux États-Unis, plus de 2000 personnes. Bangladesh, 1800. Malaisie, 1300. Vietnam, 1200. Algérie, 1000. Sri Lanka, 1000. Donc, effectivement, on peut se dire, c'est super, il n'y a eu que 579 exécutions. Dans les faits, il y en a encore 28 000 qui devraient l'être si on reste en adéquation avec les législations des pays dans lesquels, en tout cas, ils attendent, dans le couloir de la mort, d'être exécutés par les États barbares.
Ouais, puis en plus, les couloirs de la mort partout dans le monde, c'est toujours des régimes d'exception. Hein. Déjà, que la tôle, c'est pas très joyeux, mais alors, ou pas joyeux, pardon, je fais un peu d'ironie, mais voilà. Les couloirs de la mort, c'est généralement des régimes d'exception, c'est des gens qui voient pas beaucoup la lumière, c'est des gens qui attendent, et puis bon, faut essayer d'imaginer dans sa tête, de vous dire, en fait, un jour, on peut venir vous chercher et vous dire, ça y est, c'est fini.
Voyez, c'est ça.
Et c'est ça, en fait, c'est que vous vivez tous les jours en vous réveillant.
Ah bah, t'as une épée d'amoguette sur la tronche.
Donc, c'est en plus, c'est une forme de torture terrible.
Ah bah, de toute façon, oui.
Et sur la longueur.
C'est en adéquation, quoi.
Et oui, donc du coup, ça fait aussi partie du problème. Parce que j'avais vu qu'il y a des gens qui disaient, c'est bien quand des pays font des moratoires. Sauf que les pays qui font les moratoires, généralement, ils ne ferment pas les couloirs de la mort. Oui. Ils maintiennent les gens dans cette situation-là.
Un moratoire, c'est juste on met sur pause, quoi.
Suspension temporaire. Et ils peuvent revenir fois 10 ans après. Et c'est des gens qu'on laisse enfermer pendant des années dans des conditions terribles et horribles. Juste parce que, mais vous savez, c'est le régime de la peine de mort.
C'est ça.
Parce que c'est pas parce que vous suspendez la peine de mort que le régime s'effondre. Il faut bien l'abolir pour que le régime s'effondre.
C'est ça. Il y avait aussi une information intéressante, enfin je trouve, enfin, je ne sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas ça nous renvoie à la gueule de ce qu'est la réalité de la peine de mort. Hein. Donc c'est dans les méthodes d'exécution qui ont été utilisées, il y a la décapitation, il y a la pendaison, l'exécution par arme à feu et l'injection létale. L'injection létale, hein, qu'on peut se souvenir, aux États-Unis, ça avait fait un gros problème parce qu'ils n'avaient plus de produits pour tuer les gens. D'après les informations... Tu voulais dire un truc ?
Non, c'est juste que... Je voulais faire de l'ironie, mais c'est difficile sur ce sujet-là parce que je ne peux pas la faire de façon ironique, je vais le faire très clairement. C'est qu'on voit quand même à quel point les partisans de la peine de mort sont toujours prêts à revenir sur des méthodes toujours plus terribles. Parce que tu parlais du manque de produits aux États-Unis.
Oui.
Je vous rappelle quand même qu'il y a des lois qui ont voulu être passées et qui ont été bloquées au inextrême notamment au Texas et dans je sais plus quel pays, je crois c'est peut-être l'Iowa, je sais plus en fait voulait passer que comme on n'avait plus de produits, on allait revenir au bon vieux peloton d'exécution. Et je veux dire, enfin, on voit qu'il y a une sorte de fanatisme dans la volonté d'aller au bout et de maintenir ça, parce que on n'a pas la méthode qui est censée être la moins douloureuse, et encore c'est l'injection létale, faut vraiment, c'est très discutable.
Je vous invite vraiment, si vous suivez pas trop forcément autour de tout ça, c'est taper dans vos moteurs de recherche sur les mises à mort par injection létale. Ça peut durer des heures, c'est absolument horrible, hein, c'est absolument horrible.
Et donc voilà, et donc on a pas cet outil-là qui était l'un des derniers qu'on pouvait faire, parce que il y avait quand même un combat contre la peine de mort. Je rappelle que c'est pas tous les États américains
qui
la pratiquent. Donc il y avait quand même un combat fédéral où on essayait de dire, ça c'est trop violent, ça c'est trop risqué, là il y a un risque. Voilà. Donc ils étaient allés au bout pour trouver le truc, Et quand on revient vite en arrière, on dit, on va remettre le peloton d'exécution. Donc on voit bien que c'est vraiment une idée qui est ancrée généralement chez des gens extrêmement réactionnaires, extrêmement violents, chez des gens qui ont une soif de pouvoir absolu, et c'est terrible parce que ça amène, en fait, je trouve que ça démontre le pire de l'humain assez rapidement. C'est-à-dire, vous allez vous voyez un pro-peine de mort, vous lui dites, qui tu tueras en premier? Moi, j'ai toujours ça aux gens qui me disent, moi, je suis pour la peine de mort. Je dis, qui tu vas tuer en premier? Et là, il me dit, moi, je vais tuer personne. Bah, si, parce que l'État est tué en ton nom. Donc, c'est toi, tu vas toi tuer en premier. Et là, d'un coup, vous voyez que chez certains, hop, ça vacille. Donc là, la personne, elle va souvent dire, mais t'as raison, on peut arrêter de discuter. Et chez les gens qui sont vraiment fanatisés, dont c'est vraiment... Alors généralement, on parle rarement avec eux, surtout quand on est à Radio Canu, ils sont un peu de l'autre côté de l'échiquier, souvent. Mais souvent, ils ont des noms. C'est-à-dire qu'ils vont déjà vous dire, il faut commencer par telle personne, ou tel groupe. voyez. Et d'un seul coup, bah là, vous voyez que bah, derrière, il y a toute l'idée de, ouais, de violence intrinsèque à la société. Quoi.
Bah, et puis moi, je pense aussi qu'il y a un côté très religieux, en fait.
Oui, aussi.
Mais
oui.
En plus,
enfin, c'est une croyance.
Alors après, je pense qu'on peut peut-être même. Alors je ne suis pas sociologue, je ne peux pas mettre des cartes les unes sur les autres. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de regarder, en fait, le lien avec le religieux. Parce que je veux dire, on parle du Texas. Le Texas, c'est ça qui est. C'est en fait toute la. Toute cette folie, j'ai envie de dire ça, mais autant en Texas, donc ils sont à fond pour la peine de mort, hein, parce que bon, c'est oui, la justice, c'est... etc. Ce sont les mêmes qui sont contre l'avortement.
Oui, bah donc oui. C'est pour des raisons en plus similaires dans leur tête.
Ah bah bien évidemment.
Dans leur tête, ils protègent les gens.
C'est hein, exactement ça. Et tu te dis, mais en fait, oui, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre. La vie, c'est sacré, sauf quand on l'a décidé. Donc ils se prennent un peu pour Dieu. Donc vu qu'on a décidé que tu devais mourir, bon, tu vas mourir, quelle que soit la manière dont tu vas crever. On en a rien à foutre, c'est que tu le mérites en fait. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est absolument, enfin, détestable, quoi. Enfin bref.
Oui, clairement. Mais qui effectivement est à creuser.
Oui. Et aussi, alors je continue, hein, pardon, toujours autour des condamnés à mort. Donc d'après les informations, hein, d'Amnesty International, des personnes condamnées à mort ont bénéficié, pardon, d'une commutation ou d'une grâce dans les 19 pays suivants. Alors, une grâce, hein, ça ne veut pas dire que tout le monde est gracié. Hein. Donc, il y a le Bangladesh, le Botswana, les Émirats Arabes Unis, les États-Unis, Guyana, Inde, Indonésie, Iran, Malaisie, Myanmar, Pakistan, République démocratique du Congo, Sierra Leone, Soudan du Sud, Taïwan, Thaïlande, Trinité et Tobago, Zambie et Zimbabwe. Et d'ailleurs, justement, en Sierra Leone, on peut le relier avec ce que j'ai pu dire avant, c'est l'abolition de la peine de mort.
Donc, oui, tout à fait. Ouais.
Tu n'es pas condamné à mort, mais par contre.
Bah, la prison à vie existe toujours.
C'est hein, ça.
Donc, voilà, après, il y a tas de choses qui se discutent sur le carcéral et tout ça. Mais c'est clair que, oui, c'est, mais déjà d'enlever la peine de mort, c'est déjà un grand pas.
Ah, non, on est d'accord.
Voilà, donc, mais oui.
Oui, j'en étais où ? J'en étais là. C'est Amnesty aussi a recensé 7 cas de condamnés à mort qui ont été innocentés dans 4 pays, un au Bahreïn, un au Kenya. 2 aux États-Unis et 3 en Zambie. Donc c'est déjà là aussi, c'est une avancée. Parce que souvent aussi, les gens, quand on est contre la peine de mort, c'est aussi justement parce que
il y a le risque de tuer
des innocents.
Bah, oui.
Et on le voit bien aussi aux États-Unis, il y a nombre d'affaires comme ça qui sont sorties de gens qui sont dans le couloir de la mort, ou des collectifs, soit d'étudiants avocats, soit d'avocats, etc. En fait, travaillent à mort sur les procès et tout. Et en fait, on se rend compte que bah, alors, si déjà t'es un mec noir aux États-Unis et que t'as été dans un procès, il y a des chances en fait que la justice n'ait pas forcément été juste. Donc il y a plein de collectifs qui reprennent ces choses-là. Et en fait, on se rend compte que, oui, en fait, dans les couloirs de la mort, il y a beaucoup d'innocents, en fait, dont les procès ont été bâclés, etc., etc., bah, les droits niés.
J'en profite, je fais une parenthèse. Si vous avez l'occasion, essayez de récupérer une émission Last Week Tonight de John Oliver sur la police et sur la façon dont elle obtient des aveux aux États-Unis, sachant que l'aveu vaut généralement la condamnation à mort, parce que même s'il y a des traces ADN autres, on dit.
Selon l'état dans lequel t'es.
Bah oui, là où il s'est pratiqué, on va dire, bah il a avoué, donc c'est qu'il est forcément coupable. Sauf qu'on apprend dans cette émission que la police a le droit de vous mentir, que la police a le droit de vous mettre la pression, qu'on peut vous interroger jusqu'à 8 jours. Donc il y a un moment donné, c'est ça le truc, c'est là on a des innocents qui se retrouvent condamnés, mais parce qu'en fait la procédure telle qu'elle est faite est de toute façon biaisée dès le départ.
Oui, c'est ça.
Voilà, mais donc c'est l'occasion, n'hésitez pas à la
récupérer. Justement aux États-Unis, ça peut être on peut évoquer le cas de Melissa, je n'ai plus le nom, qui a été accusée d'avoir tué son enfant. Oui, en fait, il y a des images qui sont sorties et en fait le flic au départ, enfin, on peut se dire, si on arrête quelqu'un et on l'interroge, en fait, on doit partir d'une certaine forme de neutralité, à partir des éléments qu'on peut avoir, etc. Sauf que là, en fait, le flic l'interroge directement en lui disant, c'est vous qui avez tué votre enfant. Sauf qu'il n'a absolument aucune preuve. Hein. Aucune.
Ça fait partie des fameux mensonges.
C'est ça. Sauf que la police a le droit de mentir pour amener à ce que tu donnes à ce que tu avoues quelque chose que tu n'as pas fait. Mais derrière, tu seras condamné certainement à mort. Donc voilà. Donc je reprends, pardon. Amnesty aussi a recensé au moins 2052 condamnations à mort, donc dans 56 pays, soit 39% de plus qu'en 2020, où elle avait enregistré 1477 condamnations dans 54 pays. Si l'Éthiopie aussi, le Guyana, les Maldives, Oman, la Tanzanie et l'Ouganda ont prononcé des condamnations à mort alors qu'ils s'étaient abstenus en 2020, il s'est passé l'inverse pour Bahreïn, les Comores, le Laos et le Niger. Donc là aussi, on bascule entre super mauvaise nouvelle, d'un autre côté, bonne nouvelle. Donc voilà, c'est toute la complexité de cette question-là. Alors évidemment, hein, ce que je viens de vous lire là, enfin, c'est vraiment un résumé. Je vous ai pas donné tous les détails, même si vous pouvez peut-être vous dire, tu m'as donné beaucoup de chiffres, mais croyez-moi, c'est absolument rien.
C'est un sujet où justement les chiffres ont leur importance.
Mais oui. Donc, parce que enfin, vraiment, les précisions enfin, que fournit le rapport, c'est absolument énorme d'Amnesty International.
Et donc, glaçant.
Oui, aussi, évidemment. Donc c'est aussi pour ça, moi je vous invite vraiment à lire, alors à minima, le communiqué de presse, hein, sur lequel moi je me suis fortement appuyé pour vous en parler ce soir. Déjà rien que le communiqué de presse, il y a une première partie là que je vous ai vraiment beaucoup donné. Et ensuite, derrière, enfin à la suite, il y a des résumés région par région, état par état, et je trouve que c'est vraiment très 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 intéressant. Mais encore une fois, enfin là je vous l'aurais fait ce soir, vous derrière votre poste, vous en aurez juste à la casquette. Et vous auriez dit tiens je vais passer sur je sais pas quelle radio. Donc dans les faits hein, si on peut constater des baisses des exécutions, si on peut voir de plus en plus de pays qui remettent en cause la peine de mort et qu'on peut s'en réjouir clairement, enfin je pense.
Ah bah oui, clairement.
Il est évident que la lutte contre la peine de mort n'est pas terminée et qu'il me semble vraiment important en fait qu'on s'en rappelle et qu'on le rappelle régulièrement en fait, parce que dans certains mouvements, etc., on peut des fois entendre certains militants très minoritaires. Attention, je suis pas en train de faire de grands ensembles qui sont un peu excités à l'idée de mettre à mort des personnes, même si c'est leurs dirigeants, leurs bourreaux, on va dire politiques et autres. Sauf que moi, en fait, je pense que vraiment, on se plante déjà dans l'approche, en fait. C'est-à-dire que parce que je pense que la peine de mort est un truc qui est absolument détestable et qu'on doit absolument, c'est pas une réponse, on va dire, d'un point de vue révolutionnaire. Moi, je ne pense absolument pas que quand on se positionne révolutionnaire, anarchiste, d'extrême gauche, etc., se glorifier de la peine de mort, je ne pense vraiment pas qu'on puisse le faire éthiquement parlant, politiquement parlant, parce que, encore une fois, c'est pas parce que vous seriez au pouvoir, pour ceux qui cherchent le pouvoir, que vous verriez plus juste que ceux qui aujourd'hui condamnent parfois des innocents à la mort, et même qui condamne tout court à la mort. Donc voilà, et puis ensuite, enfin vraiment cette peine de mort, ça ressemble vraiment beaucoup trop à la loi du talion, à l'œil pour œil, dent pour dent, là, si cher aux religieux de toute obédience. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment important de pas, là aussi, laisser le sujet de la peine de mort sur le côté. Et de régulièrement rappeler que son abolition doit faire partie de nos bagages et venir sur ce sujet aussi, hein, comme sur tant d'autres, en soutien à toutes celles et ceux qui, dans les pays cités, luttent, militent contre la peine de mort et pour son abolition. Parce qu'il y en a dans tous ces pays, en fait.
Hein.
Bien sûr. Il n'y a pas de grands ensembles, il n'y a pas un pays où tout le monde est absolument d'accord. Effectivement, dans certains pays, les gens seront ultra minoritaires. Et ben, j'ai presque envie de dire raison de plus de les soutenir parce que.
Mais il était en France avant son abolition.
Mais bien sûr, évidemment, et oui. Et que quand tu vois qu'aujourd'hui encore, il y a certains candidats qui étaient au présidentiel qui soutiennent la peine de mort, donc leur petit soutien aussi soutiennent cette idée de merde. Pardon, j'ai dit plein de grands mots, c'est pas bien. Donc voilà. Donc c'est juste, là aussi, hein, ce
Clara a levé son panneau, tu dis trop de gros mots.
C'est exactement ça. C'est à toi que je pensais. Et donc là aussi hein, sur ce sujet comme sur bien d'autres c'est l'international qui reprend aussi tout son sens en fait. Il faut absolument se renseigner, ça fait partie de nous, ça doit faire partie de notre ADN de justement refuser cette peine de mort qui est trop appliquée et qu'on continuera tant qu'il y aura même une seule personne qui sera encore exécutée légalement entre guillemets par des états barbares. Voilà, je sais pas si c'est tout bon pour toi aussi.
Pour moi, c'est bon.
Eh ben, allez, on passe à la ZIC.
La pendaison m'aurait étouffé, vertèbre cassée. La guillotine, un coup tranché dans un panier. Strangulation, souffle arrêté, t'es asphyxié. J'ai électrique, tous les gouttes, tes cerveaux brûlés. Douze balles tirées qui auraient éclaté. Écartelé, membres arrachés, sans bras sans pieds. Et un noyé, l'eau est entrée, plus respirer. Décapité, haché, aiguisé, une tête coupée. Et la torture, ta voix criait toute la journée. Un écorché, un enterré, un affamé. Empoisonné, t'es suicidé ou bien gazé. Les verrouillés ont étranglé une vieille mémé.
toujours à l'écoute de la causerie, évidemment, sur Radio Canu. Et on vient de s'écouter les Berruriers Noirs avec le titre « La mort au choix ». Et je passe rapidement le micro à Fab qui va nous donner des nouvelles du soleil.
Alors, le soleil, on l'a un peu beaucoup
vu. Émission météo.
Voilà, on l'a un peu beaucoup vu. Non, je vais vous parler de Solar Orbiter, voilà, qui prend des photos. Mais il fait pas que ça. Voilà. Alors, on va déjà rappeler ce qu'est Solar Orbiter, parce que bon, voilà, en français, orbiteur solaire, ou observatoire spatial du soleil, pour son vrai nom. C'est en fait une sonde orbitale, hein, c'est-à-dire qui peut changer d'orbite. Parce que ça paraît bizarre, mais voilà, il faut comprendre. Qui a été envoyée par l'agence européenne, l'ESA, hein, comme on l'appelle, le 10 février 2020, pour partir observer le
soleil.
Eh ben oui, le soleil, et si possible de...
Fort, hein.
Bah ouais, et si possible de... C'est pas comme si on préparait l'émission. Et si possible de...
Ça veut dire que je suis pas fort.
Et si possible de très très près. Voilà, c'est ça l'idée en fait de la sonde. Donc actuellement, elle est en cours de stabilisation d'orbite, et sa mission définitive devrait commencer en 2023. À cette date, elle devrait se positionner sur une orbite de 0,22 unités astronomiques. Si vous avez suivi des émissions qu'on a faites avec Georges...
Moi, je les ai suivies, mais...
Voilà, vous aurez donc traduit 33 millions de kilomètres.
Évidemment.
Évidemment.
0,22. Clara, toujours à la traîne. Elle était à 35, 36 bah ouais. millions de kilomètres. Non, 33.
Et l'idée...
C'est vrai.
Alors, ça paraît bizarre, mais 33 millions de kilomètres, c'est près, hein. Du soleil.
Oui, oui.
Je vois, mais ça chauffe, hein, le soleil, quand même. C'est un truc un petit peu costaud. Pour observer, en fait, directement et constamment le soleil. Parce que l'idée, c'est de tourner autour et donc de pouvoir le voir de face, tel que nous, on est orienté, mais aussi de pouvoir monter et de le voir d'au-dessus. Parce que nous, de la planète Terre, on peut pas le voir d'au-dessus. La Terre, elle bouge pas. Voilà.
Donc, si elle bouge, mais.
Oui, mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on est sur une orbite. Et donc, du coup, ça va nous permettre de voir le soleil sous toutes ses coutures, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, sa mission, elle est prévue de durer 7 à 10 ans. Alors, pourquoi 7 à 10 ans? Ça va dépendre le temps que tiendront ses instruments, hein, parce que là où elle va se trouver, elle va être un petit peu bombardée de plein de trucs, et on sait pas trop si ça tiendra. Voilà. A priori, 7 ans, les scientifiques sont assez optimistes. 10 ans, voilà, mais en tout cas ils vont essayer, et donc l'idée, c'est aussi, si c'est possible, de faire une sorte de crash vers le soleil en bouquet final, c'est-à-dire de s'en rapprocher le plus possible, en envoyant un maximum de données pendant la période de crash, voilà, bon, sachant qu'elle atteindra pas le soleil, hein,
mais, alors, c'est sûr. Voilà.
Mais l'idée, c'est d'en s'en rapprocher le plus possible sur la fin de la mission, pour voir si on peut récupérer encore d'autres infos qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc la sonde, elle est équipée de plusieurs instruments spécifiques, hein, qui ont été taillé pour l'étude du soleil, in situ. Alors in situ, ça veut dire sur site, parce qu'on est donc au plus proche. Bon, alors bien sûr, il y a des gens, parce que j'ai vu, il y a des journalistes qui ont dit, oui, on dit in situ, mais elle n'est pas dans le soleil. Alors oui, amis journalistes, il fait très très chaud dans le soleil, alors on ne peut pas y aller dedans. Hein, voilà, donc on y va près, mais pas dedans. Voilà, c'est vrai. Mais bon, en fait, elle est au plus proche, donc on estime qu'elle est in situ parce qu'elle se trouve à des endroits où les vents solaires sont encore dit compacts, c'est-à-dire qu'ils sont assez, assez prégnants, parce que c'est ce qu'elle va étudier en premier. Et en fait, elle va aussi, pendant son voyage, faire des photos, des études, voilà. Donc elle aura pour mission, après les six autres sondes, hein, c'est la 6-7e, hein, qui est envoyée vers le Soleil, sachant que les six autres ont été envoyées depuis les années 90, mais elle n'était pas équipée des instruments aussi performants que celle-ci. Donc voilà, hein, on apprend petit à petit à faire des instruments de plus en plus performants. Et l'idée, c'est d'étudier plusieurs points qui restent imprécis pour l'humanité. Voilà, alors c'est l'analyse des vents solaires, hein, c'est ce que je vous disais, est-ce qu'ils contiennent exactement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans les vents solaires. Alors, on se rassure, les vents solaires, vous les connaissez déjà. Parce que quand ils atteignent la Terre, ils font des aurores boréales et des aurores australes. Voilà, donc, mais on veut savoir ce qu'il y a dedans. L'impact des particules suprathermiques, hein, qui ont été découvertes il y a peu. Alors, ça, je ne veux pas rentrer dans le détail de la particule suprathermique. Je ne suis pas assez doué à ce jeu-là. Je vous laisserai chercher. Mais en gros,
c'est facile, en fait. C'est...
alors, pour être clair, c'est une particule qui est plus chaude que ce qu'elle devrait être. Supra, okay. Voilà, donc elle est au-dessus de ce qu'elle devrait être. On l'a découvert il y a pas longtemps, mais on n'a pas expliqué encore pourquoi ces particules existaient.
Ok.
Voilà, et c'est juste, ça doit être lié en fait à quelque chose qui est au cœur du Soleil.
C'est tout un système, on va c'est dire ça. Un écosystème spécifique
au Soleil.
Quoi.
Et l'idée, c'est de, j'entre un peu dans les détails vite fait, c'est que ces particules laissent penser que le Soleil mourrait peut-être un petit peu moins vite que ce qu'on pensait.
Ok.
Voilà, c'est juste ça. Il y a aussi la mesure des ondes radio. Et bon, je vous rassure, hein, qui meurt moins vite, ça n'a pas changé grand-chose pour vous. Vous serez mort avant le soleil. Oui. Dans tous les cas, moi aussi.
Voilà, rassuré.
Voilà. La mesure des ondes radio et du plasma qui est émis. Alors, les ondes radio, ça paraît bizarre, mais en fait, tous les objets qui ont des fusions nucléaires ou des fissions nucléaires émettent des ondes radio. Et donc, ça permet, en fait, selon les ondes qu'on capte, de savoir ce qui se passe à l'intérieur du soleil. Parce que je le redis à mes journalistes, on ne peut pas aller dedans encore. Voilà, c'est toujours pareil. Une étude aussi du rayonnement X du soleil, parce que ça nous permet aussi de voir un petit peu ce qui se passe dans la fusion au cœur du soleil, puisque le rayonnement X est issu de la fusion. Donc voilà. Donc en gros, c'est étudier un petit peu cette énorme boule d'énergie qu'est le soleil et essayer de comprendre comment elle fonctionne au mieux. Et en plus de tout ça, ce qui va déjà prendre pas mal de temps sur Terre pour les scientifiques qui vont recevoir les données pour tout analyser, la sonde est équipée de multisystèmes de prise de vue en couleur réelle, en infrarouge, en ultraviolet, enfin histoire de prendre le soleil sous toutes ses formes et de quoi cartographier et connaître intimement le soleil sous toutes ses coutures. Voilà. Alors l'une des prouesses de cette sonde, c'est aussi d'avoir été conçue avec une protection thermique de très haute intensité, ce que n'avaient pas forcément les prédécesseurs. C'est pour ça qu'elle durait des fois un an. Vous voyez, parce qu'elle se rapprochait, hop, elle grillait. Elle embarque donc en fait un bouclier thermique de nouvelle génération, fait des derniers matériaux découverts, et notamment grâce à la nanotechnologie, mais bien moins lourd que ceux qui avaient été mis en place avant. Et donc c'est un avantage, parce que ça a permis que la sonde soit aussi lourde que celle qui la précédait, mais d'embarquer plus de matériel d'analyse.
Et mieux protégée.
Et mieux protégée. Elle fait une tonne 8 quand même. C'est un petit bébé quand même voilà. Donc il y a une première image qui est arrivée, alors cette semaine, c'est l'ESA qui a dévoilé les premières images prises par Solar Orbiter. On va d'ailleurs mettre, nous, sur le blog, des vidéos que vous pourrez aller consulter pour admirer le soleil. Okay. Et quand je parle d'admirer, franchement, c'est juste oui. Magnifique. Ce sont à ce jour les images les plus précises et détaillées obtenues du soleil. Faut être clair, c'est qu'on n'en a pas de plus précises aujourd'hui. Et autant le dire, c'est juste magnifique. Et se dire que nous avons la chance de vivre au moment où on peut voir ce genre de cliché, en fait, c'est assez grisant. C'est assez génial de se dire, waouh, on peut voir le soleil. Voilà. Alors, ces images ont été prises lors d'un passage de la sonde à 75 millions de kilomètres du soleil. Vous aurez donc traduit qu'elle se trouve à l'heure actuelle à 0,66 unités astronomiques.
Voilà. Évidemment.
Évidemment. À 0,44. Oui, c'est moi, je me suis trompé. Oui. Je me suis noté en plus. Soit quasiment à mi-distance entre la Terre et le Soleil, pour vous situer, parce que c'est pas très loin, mais quand même. Donc, au total, en fait, c'est 10 instruments embarqués sur le module spatial qui ont fonctionné simultanément pour collecter autant de données que possible et offrir un rendu extrêmement précis, visuellement parlant. Donc l'image finale, elle contient 83 millions de pixels dans une grille de 9148 par 9112 pixels, soit une résolution 10 fois supérieure à ce que peut afficher un écran de télévision 4K. Ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais dites-vous déjà, quand vous voyez du 4K, vous te faites « Waouh !» Alors là, c'est « Waouh, 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 waouh !» 10 fois. C'est juste pour « Waouh !» Non, en fait, ça permet de zoomer sur l'image des dizaines et des dizaines de fois, et vous pouvez aller sur des endroits très, très précis. C'est ça que ça permet, et c'est juste génial, parce que on n'avait pas ces outils-là, et que aujourd'hui, on arrive à être quasiment à la surface du soleil, ce qui était quasi impossible avant.
Sans se brûler.
Donc, en fait, ça offre des réponses claires à certaines choses. Donc déjà, la surface du Soleil, elle présente bien des aspérités gigantesques. Voilà, et ça, c'est, on le savait, on l'avait calculé, mais on l'avait pas vu. Donc là, on sait que le Soleil, il y a des aspérités, puis qu'il y a des vallées, des creux, des montagnes, vous voyez, parce que c'est pas lisse. Ça peut paraître bête, mais au moins...
Non, mais c'est surtout qu'on ne l'imagine pas. Enfin, en tout cas, je ne l'imagine pas. Je ne vais pas dire « on » parce que je ne sais pas qui sont « on ». Mais moi, en tout cas, je ne l'imaginais pas parce que moi, je l'imaginais vraiment comme une sphère, de lave et que donc, de fait, liquide, enfin, semi-liquide, il ne peut que être régulier, en fait.
Eh ben non, ce n'est pas régulier.
Et voilà.
Et d'ailleurs, sur la photo, et ça, c'est un vrai coup de bol, il y a un hérisson qui a même pu être observé. Alors, non, pas hérisson.
C'est pas un petit animal.
Non, pas hérisson de ton jardin. Donc, voilà. J'imagine bien le truc. Prends une photo, puis il y a un hérisson sur le soleil. Voilà. Donc, en fait, il y avait une théorie qui avait été fixée sur le fait que ces phénomènes pouvaient exister. Alors, un phénomène dit de hérisson, j'y viens, mais ils n'avaient jamais été observés directement. Et là, coup de bol, on prend la photo, il y en a un, donc c'est génial. En fait, c'est une sorte de groupement de milliers de geysers de matière qui partiraient dans tous les sens. Et ça fait comme un hérisson, vous voyez, comme les épines d'un hérisson, d'où le nom d'un hérisson. Et en fait, comme le dit l'ESA sur son compte Twitter, l'ESA, je vois pas, c'est l'agence européenne
spatiale
l'agence spatiale européenne, le hérisson en question, il s'étend sur 25 000 km à travers le Soleil et possède une multitude de points de gaz qui s'étendent dans toutes les directions, ce qui lui vaut son surnom de hérisson. Voilà. Et le truc, c'est que... Ils ajoutent derrière, parce que, alors pour l'heure, sans les futures mesures qui sont prévues, l'explication d'un tel phénomène est impossible. Hein, voilà. Mais c'est passionnant, parce qu'on savait que ça pouvait arriver, mais on ne l'avait jamais vu. Et là, on l'a vu à la première photo. Donc c'est
moi, ce que je trouve aussi toujours assez intéressant, quand tu nous parles de ça, ou quand Georges nous parle de, certaines choses. Message, Georges, message. Non, c'est qu'en fait, je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin...
Il y a une théorie et on voit.
Oui, et puis on est capable de dire, bah là en fait, si on n'a pas plus d'infos, on ne saura pas l'expliquer.
Non.
Là où d'autres, bah justement, ceux qui détestent la science et tout ça, aiment te donner une seule réponse qui s'appelle Dieu ou je ne sais pas quelle autre connerie, et ben là c'est, bah en fait, on ne sait pas. On l'observe, mais on ne sait pas l'expliquer.
Mais là par contre, cette photo et l'existence de ce hérisson, ça répond à une question primordiale malgré tout. Oui, le Soleil éjecte de la matière, ça on le savait déjà. Oui. Mais parfois de façon totalement aléatoire en termes de masse et de direction.
Ouais, genre il fait n'importe quoi, quoi.
Et ça, c'est assez nouveau, parce qu'en fait, dans l'esprit collectif, on disait qu'il devait y avoir quand même des règles. Bah non. Voilà. Alors pourquoi il faut étudier le Soleil ? Alors déjà, tout simplement pour les connaissances, parce que plus nous connaissons notre environnement et l'univers, et plus nous nous éloignons des superstitions, des peurs basées sur l'inconnu. Donc voilà, je vous rappelle, il y a des millénaires, on avait peur de la foudre, maintenant on sait ce que c'est, on en a parfois toujours peur, mais pour d'autres raisons.
Oui, mais en tout cas, on ne dit pas que
c'est pas des dieux, c'est pas le ciel qui nous tombe sur la tête. Mais au-delà de ça, notre mode de vie est aujourd'hui clairement en lien avec l'espace. 70% du numérique que nous utilisons de par le monde est relié à des structures faisant appel à au moins un satellite. Donc c'est énorme, hein, 7 sur 10, hein, 70%. Et donc il suffit de se souvenir des 60 satellites de Starlink, la société d'Elon Musk, vous savez, le milliardaire voleur d'idées, là, qui ont grillé à cause d'une éruption solaire et sont retombés sur Terre en grillant du coup dans l'atmosphère, voilà, pour comprendre l'importance justement de comprendre exactement comment fonctionne notre étoile la plus proche. Parce qu'en fait, Elon Musk, il avait envoyé des jolis petits satellites, là, hop, 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 il n'avait pas eu de bouclier, oh, c'est bon, les vents solaires, c'est rare, et pas de bol, c'est pas si rare que ça. Parce qu'on ne savait pas encore prédire, vous voyez. Alors ne paniquez pas, hein, les flux solaires, nous savons que nous en recevons, hein, comme je vous disais, les aurores boréales et les aurores australes, c'est lié à ça. Et puis aussi, on a bien vu qu'il y avait des instruments qui étaient perturbés par moments, voire même des coupures électriques qui étaient provoquées par des vents solaires, ça on le sait. Et nous, on sait qu'au sol, on est globalement protégé par le champ magnétique qui est produit par la planète Terre. Enfin, si ces vents solaires ne sont pas trop puissants. Et c'est ça en fait la question qu'on se pose. C'est-à-dire que les scientifiques aujourd'hui se disent, mais est-ce que dans l'histoire de la planète, je vous rappelle que nous on a 300 000 ans à peu près, hein, l'être humain, enfin l'humanité, est-ce que finalement il y a 2, 3, 4 millions d'années, il n'y aurait pas eu déjà une éruption solaire très forte qui aurait pu toucher la planète et qui pourrait être potentiellement dangereuse pour nous en tant qu'être humain aujourd'hui si elle arrivait.
Est-ce que c'est touché matériellement, c'est-à-dire que...
Ah oui, matériellement, c'est que de la matière...
Genre de la matière aurait fait...
Alors, c'est pas de la matière incandescente, parce que bien sûr, il y aura toujours l'atmosphère, oui. Mais par contre, ça peut créer des répercussions d'un mouvement qui a eu... qui peut arriver, ou une irradiation, ou des choses comme ça, et puis peut-être, par exemple, que ça pourrait couper toutes nos centrales nucléaires d'un coup, vous voyez.
Quelle bonne idée.
Mais non, mais c'est un scientifique qui dit, par exemple, le genre de choses qu'il faudrait pas qu'il s'arrête d'un coup, vous voyez, une centrale nucléaire, il faudrait pas que d'un coup, pouf. Oh mince. Voilà, donc il faut étudier ça. Et d'ailleurs, cela pose aussi des problèmes pour les projets à venir. Parce que, dire qu'on veut retourner sur la Lune, voyager jusqu'à Mars, ou même tout simplement avoir des stations spatiales habitées plus grandes que l'ISS, c'est très bien. Sauf que, il y a des humains dedans. Et les humains, ils n'aiment pas bien les radiations, hein, c'est pas trop leur truc. Et en fait, il faut pouvoir étudier et prévoir les vents solaires puissants qui peuvent se produire par moment, et peut-être comprendre mieux le Soleil pour pouvoir mieux les anticiper et pouvoir dire, par exemple, à la station orbitale, dans X heures, tu vas être touché par les vents solaires, ferme tes panneaux solaires, blinde la station, restez à l'intérieur, mettez-vous dans le caisson prévu à ce fin, et on attend que ça passe, et quand c'est passé, vous pouvez ressortir. Ça va très vite, hein, en général, les vents solaires, ça dure pas sur des heures et des heures. Donc du coup, voilà, c'est ce qui concerne les humains. Mais il y a même les satellites, hein, qui sont soumis aux caprices de notre étoile et de notre Soleil. Et parmi les satellites présents en orbite se trouvent tous les satellites militaires armés. Oui, parce qu'on parle de ces satellites en ce moment, vous savez, ben, il y en a là-haut, voilà, qui, lorsqu'ils ont été déployés dans les années 80-90 en particulier, n'avaient pas forcément intégré complètement les risques liés au flux solaire. Hein, voilà. C'est pas très rassurant. Puis bien sûr, il y a tous les autres satellites qu'il faudrait protéger parce que, comme je vous le disais, 7 applications sur 10 du numérique passent par au moins un satellite. Donc voilà. Donc le but des scientifiques, dans l'étude du Soleil, c'est donc de pouvoir anticiper ses caprices, enfin ses cycles, parce qu'on parle de caprices, mais les scientifiques disent non, c'est pas un caprice, c'est pas un enfant, le Soleil, oui, c'est ça. Non, c'est des cycles, voilà, comme on dit. Et du coup, de pouvoir protéger les objets ou les humains qui seront ou sont dans l'espace aujourd'hui et demain. Mais aussi en fait de voir si les vents solaires très intenses, comme je vous disais, ne pourraient pas mettre en danger les infrastructures aussi sur Terre, voire impacter la vie de millions de personnes. Parce qu'après tout, on n'en sait rien. Donc, le but, c'est de comprendre. Et encore une fois, les scientifiques le disent, on ne joue pas à se faire peur, on joue à comprendre. Ouais. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, au moins, si le résultat, c'est ça ne peut pas arriver, tant mieux. Ils ne cherchent pas à dire, ça peut arriver, c'est super cool. Si le résultat, c'est tant mieux, il ne peut rien se passer, c'est pas grave. Mais en attendant, au-delà des données scientifiques, il y a aussi la beauté des images faites du Soleil qu'il faut savoir apprécier. Parce qu'on entre en fait dans une ère qui est très intéressante en ce moment. Les sondes envoyées partout dans l'univers ou dans notre système solaire intègrent en fait des moyens de prise de vue qui dépassent la HD, comme je le disais, la haute définition, et vont vous permettre et nous permettre et me permettre de voir notre système solaire et peut-être même plus tard au-delà de notre système solaire de façon plus claire et plus belle que jamais. C'est-à-dire avec les vraies couleurs, avec les vrais reliefs, avec tout ça. Et ça, c'est une source d'émerveillement sans fin et qui, à titre personnel, moi, me passionne. C'est-à-dire de me dire, on va peut-être pouvoir voir la planète là-bas. Moi, je me rappelle des photos de Pluton qui avaient été renvoyées il n'y a pas très longtemps. Et moi, Pluton, quand j'étais gamin, on m'avait appris que c'était une bille et qu'elle c'était loin. Puis après, on découvre que c'est pas du tout rond. Puis en plus, il y a de la glace et puis il y a des trucs qui s'en vont. Puis il y a des couleurs. Enfin, c'est passionnant, en fait. Voilà.
Ah, mais oui, on l'a déjà dit quand on a fait les émissions avec Georges, mais vraiment, amis auditeurs, auditrices, si vous avez l'occasion, la chance de pouvoir faire de l'observation, évidemment, ça vous emmènera pas au fin fond de la galaxie, mais voir, Saturne et ses anneaux, c'est waouh, c'est bluffant, même ne serait-ce que la Lune, c'est juste. Waouh! Et c'est génial, en fait. C'est juste, quelque part, on retrouve peut-être un peu des yeux d'enfant, mais je pense que c'est plutôt pas mal, en fait, positif. Effectivement. Ouais.
Donc, espérons, en fait, que la mission Solar Orbiter ira au bout de sa mission, déjà, et qu'après celle-ci, nous puissions mieux comprendre notre étoile et qui sait, mieux comprendre un peu qui nous sommes et ce qui nous entoure. Et c'est ça qui est passionnant dans l'exploration spatiale.
Carrément.
Et avant de lancer la musique, je vais juste faire une petite parenthèse. Je vous invite vraiment aussi à soutenir en ce moment le planétarium de Vaux-en-Velin, qui, comme plein d'institutions, est touché par les baisses de subventions potentielles et autres. Et je vous rappelle que le planétarium, c'est 95% de bénévoles qui font vivre une structure qui est ouverte au public et qui quand même permet de justement d'aller toucher du doigt l'univers, qu'il est à Vaux-en-Velin, il est pas en plein cœur de Lyon, tout ça, mais il faut y aller, faut vraiment, et soutenez-les, parce que c'est emmener vos enfants si vous en avez,
et même sans enfants vous avez le droit d'y aller aussi.
Non, mais je dis ça parce que les gens disent souvent mais c'est dur de faire de l'observation. Oui, c'est vrai, par contre il y a un outil qui est tout près de Lyon qui s'appelle le planétarium de Vaux-en-Velin, qui vous offre des voyages fantastiques, des photos hallucinantes et des vidéos, et où il y a des passionnés qui peuvent vous raconter des choses.
Oui, c'est ça.
Ils vous raconteront
c'est
l'univers.
C'est de la vulgarisation.
Personne. Donc allez-y et soutenez-les, surtout en ce moment, parce que vraiment, ils sont, a priori, ils seraient dans le collimateur aussi, des choses qu'il ne faudrait plus aider parce que ce n'est pas essentiel,
C'est ça. Mais par contre, il fallait aider un gros festival organisé par Le Loup Rugby qui a déjà des millions et par GL Events.
Ça, c'est essentiel.
Mais on est encore sur un autre débat, pardon.
Voilà.
On passe
à la musique. tu es de retour dans la causerie au 102.2 sur Radio Canu ou sur radiocanu.org et ou en FM pardon sur radiocanu.org et on vient de s'écouter, alors oui, alors Jean-Yves va vous dire que c'est la rubrique nécro du moment. Voilà. Non, on vient de s'écouter Depeche Mode avec People Are People. Bah oui, parce qu'Andy Fletcher, un des fondateurs de Depeche Mode, qui était le clavier et qui est celui à qui on doit les plus grandes nappes de clavier d'ailleurs du groupe, a trouvé la mort à l'âge de 60 ans cette semaine. Et voilà, et moi j'aime beaucoup Depeche Mode et je me suis dit quand même petit hommage, c'était pas de refus. Voilà. Et sinon, on va terminer cette émission avec des annonces, des trucs à faire la semaine prochaine. Et par exemple, le lundi 30 mai, si tu ne sais pas quoi faire, tu te dis, tiens, je vais aller voir quelque chose qui s'appelle Ville à vendre, discussion autour de 3 livres sur le capitalisme urbain. Voilà. Et donc, le capitalisme influence la production de la ville dans des proportions sans doute jamais égalées. Pour mieux lutter contre, il est important de comprendre par quel processus il s'impose à nous. Présentation et discussion avec les auteurs et autrices de 3 livres récents parus. C'est le lundi 30 mai à l'annexe de l'ECG de 19h30 à 21h30. Alors, je vous liste pas les livres, vous irez voir sur Rebellion, parce que c'est un peu long. Mais en l'ECG, l'annexe de l'ECG, c'est 27 rue Salomon-Rénac dans le 7e. Donc, c'est à 19h30. Voilà.
Et la deuxième petite info, si vous parlez radio, c'est mardi soir, on sera le 31, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Mardi soir, donc 31, de 19h à 21h, il y aura la rediffusion d'une émission de radio qui était sur Radio Renversée et qui s'intitule « Renverser les barrières, instituer l'autodéfense sanitaire ». Et en fait, c'est moi qui vais la rediffuser, mais je trouve que c'est...
Ah, tu fais ton autopromo.
Oui, mais c'est aussi... Alors, en fait, c'est pour expliquer en fait, un petit peu l'autodéfense sanitaire quand il y a eu le Covid et quand il y a encore le Covid, hein, parce qu'on ne peut pas dire que tout est fini absolument et tout ça. Donc c'est vraiment... Alors au départ, il y a des témoignages individuels, de débrouillages avec l'autodéfense sanitaire. Il y a aussi il y a plusieurs intervenants, dont un qui est Thomas, qui, si vous vous promenez sur des sites un peu type Rebellion et autres, avait écrit un texte qui s'appelait « Alors, on ne voit plus aux soirées » et qui justement revenait sur quelles pratiques ont été mises en place ou pas dans les lieux militants, dans les milieux militants, etc., etc. Il y aura aussi des intervenantes du collectif lyonnais de Zéro Covid Solidaire. Et aussi, dans un deuxième temps, en fait, il y a la pratique, la mise en pratique, on va dire, dans des lieux ouverts au public.
Comment on fait,
en fait ? Alors nous, Radio Canu, on n'a pas été dans un cadre ouvert au public. Pour autant, on a aussi réfléchi, alors sûrement pas parfaitement, on est bien d'accord.
À comment on fait
face à ça. Donc voilà, donc c'est 2 heures d'émission autour de tout ça, où les gens discutent, etc. Donc vraiment, je vous invite à l'écouter, parce que merde, je vais venir à la radio, donc vous avez intérêt à écouter. Non mais c'est hyper intéressant, et justement c'est aussi remettre nos propres pratiques en question, et aussi soit notre aveuglement face à ce qu'a été et ce qu'est encore le Covid, ou pas d'ailleurs. Donc voilà.
Et d'ailleurs, moi je lance un appel, il serait temps quand même que l'on fasse de la gratuité pour les masques FFP2 pour les personnes immunodéprimées et leurs proches, pas que pour les personnes immunodéprimées, mais aussi leurs proches, parce qu'on oublie ça. Et oui, parce que quand il y a plus grand monde qui porte un masque, ce qui est pas, je suis pas en train de dire que c'est bien ou pas bien, juste c'est un fait. En fait, les personnes sont immunodéprimées ou leurs proches, il faut qu'ils puissent porter des masques FFP2 qui les protègent. Qui empêche en fait la contamination, et voilà, et en fait c'est un coup, et il y a plein de gens en fait, notamment des proches, qui aujourd'hui expliquent le problème c'est que moi j'essaye de le faire, et ce qui est normal, sauf que la boîte de masques FFP2 c'est cher, et que honnêtement en acheter une ou deux par mois ça va très très vite dans le budget, et il y a plein de gens qui peuvent pas se payer ça, donc ce serait la moindre des choses.
C'est voilà. Ça.
C'est un premier pas, hein, mais.
Oui, et puis après, alors au-delà de cette diffusion, mardi 19h-21h, c'est aussi, en fait, sur les vaccins, on entend plus grand monde qui réclame la levée des brevets, etc., etc.
À la dernière réunion, nous étions 4. Je vous le dis. Je peux vous le dire, c'est une réunion européenne, hein, donc il y a du monde. Hein.
Donc voilà, donc c'est aussi, c'est une entrée, en tout cas, à discuter de tout ça, et peut-être aussi après continuer de s'interroger sur tout ce qui a été fait ou pas fait justement autour du Covid, parce que franchement je pense qu'on n'en est pas totalement sorti.
Et puis pas oublier que ça peut nous aider aussi à réfléchir à ce que c'est que d'avoir une vision non pas individualiste mais collective de la protection.
C'est ça. Voilà, et on a fini avec les brefs, et puis on va vous quitter en musique évidemment, et c'est Clara qui annonce donc le dernier titre.
Ouais, c'est moi. Alors, on s'équipe avec.
Ouais, c'est moi. Ouais, moi, c'est Clara. Et ouais, ok.
Oui. Et oui, on se quitte avec un titre de Olafur Arnalds qui s'appelle Saman.
Et là, donc, on dit aux gens, posez-vous, éteignez les lumières et laissez-vous porter.
Et allumez-vous un pétard.
Ça dure pas très longtemps, mais bon.
Non,
posez-vous
mais c'est...
quand même.
Ouais, mais ouais, carrément. Alors,
allumez vite le pétard, c'est trop longtemps.
Faut pas lui dire ça.
Pas dire ça. Je n'ai rien dit, c'est une voix dans la radio.
Donc, nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain, 22h, 23h, toujours à l'antenne de Radio Canu. D'ici là, bon courage pour la semaine à venir. Des bisous. Ciao.
Bisous, salut.
Ciao.